Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
L'Académie a le plaisir rare de recevoir une représentante des alliances françaises en Russie, Madame Elisabeth Braun, qui est la coordinatrice des alliances françaises de Russie. Vous êtes déléguée de l'ambassade de France en Russie, si j'ai bien compris?
C'est-à-dire que on travaille en équipe avec le réseau des alliances françaises, donc mon rôle est de coordonner le bon fonctionnement de tout ce grand réseau et je suis rattachée à l'ambassade de France à Moscou.
Je vous invite de parler tout de suite un peu de la Russie. Cette Russie mythique et mystique, on voit tout de suite les vastes étendues, la toundra, viennent à l'esprit également, bien sûr, Moscou, la place rouge, la Russie des tsars, la Russie éternelle, la Sainte Russie également, la balalaïka ou la vodka font aussi partie de l'imaginaire russe. Est-ce que c'est possible de parler de cette complexité de la Russie en quelques mots pour faire ressortir quelques caractéristiques qui seraient valables encore aujourd'hui ou de déconstruire certains stéréotypes sur ce pays, comme vous dites vous-même, pour apporter une nouvelle représentation plus proche de la réalité russe? Alors, je vous pose la question, Elisabeth Braun.
Oui, je dirais tout simplement que la Russie est un pays de contraste. Donc, déjà dans les faits, puisqu'il fait très froid l'hiver, il fait assez chaud l'été, mais aussi dans une idée où ce pays est assez déroutant, puisque finalement, l'impossible, je dirais, n'existe quasiment pas. Tout est possible, on en est d'ailleurs assez étonné. Ça peut être un contraste aussi par rapport aux relations avec les gens, par exemple, lorsque... Les Français disent souvent, lorsqu'ils arrivent à Moscou en tout cas, prendre le métro, c'est tout un périple. En France, on est habitué à ce que l'on tienne la porte quand on entre dans le métro. En Russie, on risque de se recevoir la porte sur le coin du nez, donc il faut faire attention. Donc au départ, on a l'impression que le peuple russe est assez brusque, brutal. Et finalement, lorsqu'il vous accueille chez lui, lorsqu'il vous ouvre la porte, c'est très chaleureux. Voilà, donc ça, c'est un contraste assez important. Par ailleurs, si on parle de Moscou, c'est une ville, je dirais, surdimensionnée. C'est très, très grand. Marcher d'une station à une autre, si c'est tout à fait valable à Paris et agréable, à Moscou, ça l'est un petit peu moins. Il faut avoir beaucoup d'énergie pour être dans cette ville. Et c'est une ville qui est très intéressante parce que les détours en sont étonnants. Culturellement, c'est très riche, humainement également. Ça, c'est pour, je dirais, la dimension du pays et les contrastes dans les villes. Si vous allez plutôt à Nijni Novgorod, sur les bords de la Volga, Saratov, Samara, toutes ces jolies vieilles villes de la Volga, évidemment, vous n'aurez pas du tout la même ville dans l'Oural ou encore en Extrême-Orient comme Vladivostok, où même la population est complètement différente du fait de la proximité d'autres pays. Voilà, donc c'est un pays qui demande énormément de temps pour être découvert. Beaucoup de patience aussi. La patience est une vertu en Russie, même pour le peuple. Et je pense que c'est un pays qui vaut tout à fait le coup pour y aller et pour le découvrir.
Oui, d'ailleurs, ça se pratique de plus en plus, je crois, parce qu'il y a une certaine ouverture quand même depuis la chute du communisme. Donc, les voyages sont facilités. Et Dieu sait si tout le monde est conscient des richesses à découvrir dans ce pays, outre les contrastes que vous venez magnifiquement d'évoquer, mais aussi toutes les richesses culturelles, quand on pense au musée...
Le musée Pushkin, oui, le musée de l'Ermitage aussi à Saint-Pétersbourg.
À Saint-Pétersbourg, j'avais sur les lèvres Leningrad, mais évidemment, je me suis reprise parce que ça n'existe plus, Leningrad.
Donc... C'est Saint-Pétersbourg aujourd'hui.
Justement, Saint-Pétersbourg, est-ce que vous y allez de temps en temps? Vous avez l'occasion
Alors,
de
j'y suis
voyager?
Allée seulement deux fois à Saint-Pétersbourg, donc une fois dans les années 90... Et une fois dans les années 2000, donc la ville avait un peu changé, d'autant que la deuxième fois, cela donc faisait suite aux 300 ans de Saint-Pétersbourg. Donc il y a eu énormément de changements, de travaux, de rénovations. Saint-Pétersbourg est une très très belle ville, il faut la découvrir. On dit que ça ressemble à la fois à Venise, à Paris, voilà, c'est un mélange d'architecture. C'est une ville qu'il faut faire à pied et qui est tout à fait possible d'ailleurs de visiter à pied, pas tout à fait comme Moscou. Donc on est dans une ville où l'histoire, je dirais, est très forte. J'ai toujours eu l'impression de voir ce qui s'était passé. Enfin, les bâtisses respirent l'histoire aujourd'hui là-bas, à mon avis.
Elle a été construite par Pierre le Grand ?
Tout à fait. Mmh. Il y a 300, 305 ans maintenant, sûrement.
Et donc, elle respire l'histoire, vous dites ? C'est-à-dire, lui-même, il a essayé de donner un caractère historique de son règne. Et donc, il a fait construire des bâtiments absolument somptueux.
Tout à fait.
Et puis, Moscou, la ville où vous habitez, vous dites qu'elle est plus difficile que Saint-Pétersbourg à faire à pied parce qu'elle est immense, surdimensionnée. Oui. On court autant qu'à Paris ou à New York ?
Oui, je pense qu'on court autant. C'est une ville très active, très dynamique, dans différents domaines. Par exemple, le métro qui est magnifique, dans le centre de la ville. Il y a toujours beaucoup de monde. Le métro va très très vite. Ce n'est pas du tout la vitesse du métro parisien où on pourrait presque se reposer finalement. Mais là, c'est comme la vitesse d'un RER, je dirais, si on compare. À vrai dire, ça n'est pas un choc du tout au tout début lorsqu'on y vit, mais il faut la comprendre. Il faut la comprendre, il faut pouvoir s'introduire dans cette ville petit à petit. Et surtout, à nouveau, être patient, parce que ça n'est pas simple d'être assimilé à cette ville. En tout cas, c'est mon expérience personnelle, bien sûr. C'est sûrement pas un discours général, mais ce sont les impressions que j'ai eues au départ.
Est-ce qu'on ressent les inégalités qui existent sûrement en Russie, un peu aujourd'hui comme partout, mais j'imagine que la Russie s'étant ouverte à la société moderne, disons, pour simplifier, il persiste de très grandes inégalités et qui doivent être plus sensibles dans une grande ville comme Moscou ou pas ?
On voit bien sûr des disparités sociales, tout comme on en voit à Paris. Je pense que toutes les grandes villes ont effectivement des différences de couches sociales, etc. Et à Moscou, on voit beaucoup moins, je dirais, des personnes qui vivent dehors finalement. Mais il y a effectivement des gens qui font, peut-être à cause du froid, certainement, oui, pendant l'hiver. D'autant que cet hiver en ce moment est assez rude.
Mais cet hiver 2009-2010, oui, il est particulièrement rude.
Les mémoires aussi des Français, je pense.
Oui, absolument.
Bien entendu, il y a des différences, mais ça n'exclut pas que Moscou et d'autres villes. Enfin, j'ai vécu quelques années aussi en province et on voyait aussi ces différences. Mais j'ai également vécu à Paris ou en banlieue et je n'ai pas eu l'impression, me retrouvant en Russie, de voir quelque chose d'exceptionnel. Je crois qu'on est, malheureusement, aujourd'hui, il y a ces différences qui existent un peu partout.
Et les habitations commencent à être assez modernes ?
Alors, il y a un regard quand même sur le patrimoine. Donc, à Moscou, il y a des constructions staliniennes qui sont bien en place, toujours, et les gens aiment assez ces habitations. Pourquoi ? Parce que ce sont des appartements en général assez grands, avec des hauteurs de plafond conséquentes. Donc, cette grandeur donne un confort de vie, immanquablement. Il y a aussi des constructions qui sont toujours là, de l'époque de Brejnev, de Khrushchev. Donc, il y a une reconnaissance par rapport à l'histoire. On voit à quelle époque ça a été construit. Quelles étaient les priorités aussi ? On le ressent beaucoup. Par exemple, dans les appartements khrushcheviens, c'est beaucoup plus petit que les appartements staliniens. Maintenant, chacun interprète les choses à sa manière. Bien entendu, il y a encore des bâtiments, et heureusement, de l'époque d'avant la Révolution. Et enfin, il y a effectivement des constructions modernes de l'ère, donc on dira poutinienne et de Medvedev aujourd'hui.
Donc la Russie se modernise
à
toute allure. Les mentalités aussi, j'imagine, suivent.
À toute allure, oui, effectivement, je crois que c'est l'expression, parce que
c'est
tout va très vite.
C'est la mondialisation, même dans l'âme russe.
Je ne sais pas si on peut parler de mondialisation. Forcément, il y a des traces de la mondialisation qui viennent aussi dans ce pays, mais il y a aussi les mentalités qui sont importantes, qui sont le reflet d'une culture. Et heureusement, pour le moment, c'est encore la mentalité russe et la culture russe.
Si vous voulez bien, on peut peut-être parler plus précisément des rapports de la Russie et la France, puisque vous êtes une digne représentante de la France dans ce beau pays qu'est la Russie. Alors, dans le passé, à partir, disons, du XVIIIe siècle, du règne, en tout cas, de Catherine la Grande, le français est devenu une langue quasiment officielle, en tout cas des élites russes, et de toutes les élites, y compris les intellectuels, il faut le souligner. Et le français a véhiculé, entre autres, le bon goût quand même, le bon goût de l'aristocratie, mais aussi les idées subversives des Lumières. Et on peut dire que la francophonie à l'ancienne, en Russie, comportait donc aux yeux des Russes déjà des ambiguïtés. Il y avait la déchirure entre acculturation à l'occidental, et qui était en contradiction dynamique et parfois même dramatique avec la culture de la Russie profonde, ancienne. Alors, on peut dire, peut-être en exagérant un peu, que la culture française et la langue française surtout a son apport majeur dans la conscience nationale russe, l'ouverture vers l'Occident et la modernité, et de l'autre côté, la fermeture et la défense de la société traditionnelle russe populaire et en général orthodoxe.
Ce sont des grands thèmes, je pense. Il faudrait des grands penseurs pour y répondre plus correctement que moi. Je ne pourrais parler seulement que de mon expérience, finalement, dans ce pays, enfin, de mon parcours également, mais bien sûr...
Ce contraste, donc, vous avez parlé tout à l'heure du contraste de la vie aujourd'hui, qu'on peut sentir à chaque moment, et ce contraste par rapport à la France ou par rapport à la langue française, qui, normalement, devrait être palpable encore aujourd'hui entre, donc, cette influence du bon goût et des lumières pour, disons, une certaine élite intellectuelle et noble, et le côté très paysan de la Russie profonde.
Je pense que chaque pays se nourrit des cultures, finalement, des pays qui sont à proximité, voire lointains. Les Russes ont dans leur esprit, particulièrement s'ils ont découvert la France, c'est à travers la littérature française, finalement. Voilà. Donc ça, bien entendu, ils s'en sont imprégnés, et peut-être pour certains, cette littérature les a influencés. Maintenant, en ce qui concerne effectivement ce contraste entre Russie d'aujourd'hui contemporaine et Russie, ce qu'on appelle Gloubinka, donc un peu profonde entre guillemets, ça existe encore aujourd'hui. Donc je crois que c'est quelque chose qui est sur la durée. Avant la Révolution, il y avait une majorité quand même de paysans finalement en Russie.
Donc, qui ne parlait pas le français.
Tout à fait. Donc, il y avait
mais
aussi...
l'élite parlait français. Oui, c'était presque la langue, français. La deuxième langue, si j'ai
vrai,
bien
oui,
compris.
Tout à fait,
donc,
ouais.
Il y avait dans une partie de la Russie, disons, dans une partie éclairée du pays, j'imagine une grande francophilie. Et par ailleurs, avec plein d'autres raisons, comme par exemple l'invasion de l'armée napoléonienne,
oui.
Une grande francophobie. Donc, pour simplifier la question... Ça se ressent encore aujourd'hui dans les différentes couches de la société, la francophilie ou la francophobie, ou c'est pas le problème?
Non, par rapport à la place de la France, du français, si le russe décide d'apprendre le français, il en sera passionné, il le fera avec passion, pour la plupart en tout cas. Pour la culture, pour la langue, pour les valeurs que la France représente, dans sa totalité, c'est-à-dire que ce ne sera pas... J'ai un regard à peut-être 40%, mais ce sera vraiment à 100%. Donc, un investissement complet de la part du public russe. Bien entendu, le peuple russe plaisante souvent sur la présence de Napoléon. Voilà, et sur les objectifs de cet empereur qui, finalement, ont été réduits en cendres. Voilà, donc ça, c'est aussi leur force, puisqu'ils ont réussi à l'empêcher d'atteindre ses buts au détriment de la destruction de la ville. Ce qui est quand même relativement
incroyable.
Le nationalisme
incroyable. Russe en
oui,
sort fortifié,
oui,
bien entendu.
Tout à fait, oui. Tout à fait.
Mais écoutez, outre Napoléon, ça nous amène quand même tout droit à parler des alliances françaises dont vous êtes la coordinatrice dans ce vaste pays. Mais avant, on ne va pas se priver du plaisir d'écouter un peu de musique russe comme il se doit.
Avec plaisir.
Après une courte pause. Nous sommes toujours en compagnie d'Elisabeth Braun, la coordinatrice des Alliances françaises de Russie, qui a eu la grande gentillesse de venir dans nos studios. Elle est venue de loin, on peut dire, parce qu'elle habite Moscou, mais il y avait une autre occasion que Canal Academy, le 32e colloque international de l'Alliance française à Paris, qui vient d'avoir lieu. Et nous avons profité de sa présence à Paris pour l'inviter sur notre antenne. Après ces quelques mesures de Prokofiev qui donnent une tonalité tout à fait moderne de cette vieille Russie, nous allons maintenant nous pencher plus spécifiquement sur les alliances françaises en Russie. Comme on sait, c'est un vaste territoire, presque un continent. Et il y a combien d'alliances françaises en Russie?
Aujourd'hui, il y en a 11.
Et qui sont donc
réparties. L'on regarde la Russie, donc du côté plutôt occidental, on dira, en passant par l'Oural jusqu'à l'Extrême-Orient.
C'est-à-dire, nous avons...
On a des alliances françaises, Nijni-Novgorod, Rostov-sur-le-Don, Kazan, Saratov, Samara, Toliati, donc qui est la partie plus proche de Moscou, on dira. Puis nous passons par l'Oural, donc Ekaterinbourg et Perm. Ensuite, on va aller un petit peu en Sibérie, Novosibirsk, Irkoutsk. et on finira en Extrême-Orient, à Vladivostok.
Que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc ça vous fait voyager beaucoup en Russie ?
J'ai pris mes fonctions il n'y a pas très longtemps, donc pour le moment je n'ai pas encore parcouru tout ce gigantesque pays, mais oui, je suis déjà allée dans 3 villes qui se trouvent au bord de la Volga. Donc oui. Nijni Novgorod, Samara et Tolyatti.
Et Kazan aussi, non ?
Kazan aussi se trouve sur le bord de Volga, mais je n'y suis pas encore allée.
Ah oui. Il y a donc toutes ces républiques, on se souvient, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tatarstan, Kazan justement est la capitale. Donc tout ça se retrouve au sein d'une grande Russie.
Alors non, pas le Kazakhstan ni l'Ouzbékistan dont vous avez parlé, puisque ce sont des pays de l'ex-Union soviétique. Mais ce sont des pays apparents. Non, ils ne font plus partie de la Russie.
De la fédération, non ?
Non. Par contre, bien sûr, le Tatarstan est une république de la Russie.
Oui, vous voyez, nos informations ici sont assez floues parce que depuis la fin de l'Union soviétique, les choses ont beaucoup changé, mais on n'a pas toujours très clairement en tête où en sont les relations entre les différentes républiques ou ex-républiques, etc.
C'est vrai qu'on a plus conscience de ça quand on est sur place, au cœur de l'action.
Donc, dans ces 11 alliances françaises, réparties un peu dans ce vaste territoire, vous avez une idée de la
superficie. Non, parce que ne serait-ce que la Yakoutie fait déjà 27 fois la France, donc on est seulement dans une partie de la Sibérie. Donc c'est,
on va se contenter de
cette quelque
tension.
Chose assez immense.
Oui, oui.
Mais c'est simple, Moscou-Vladivostok en avion, c'est 8 heures d'avion.
D'accord.
Voilà.
Et donc, il y a une interrelation entre ces différentes alliances ?
Oui, bien sûr. Nous travaillons en réseau. Et là, je salue le grand travail de la personne qui travaillait avant moi, donc Mireille Cheval, qui a été coordinatrice aussi pendant 5 ans. Les priorités, en tout cas, étaient de vraiment de pouvoir créer un réseau. Les objectifs ont été obtenus. C'est un travail commun sur ces 11 institutions dans les différentes, et malgré les distances, dans les différentes parties de la Russie.
Et comment cela fonctionne-t-il ?
Eh bien, d'une part, par mail, ça c'est tout à fait utile.
On est quand même un peu aidé par les nouvelles technologies.
Oui, tout à fait, mais surtout parce que nous organisons chaque année des réunions de formation, des réunions de directeurs aussi, donc cela concerne quasiment tous les corps de métier qui sont à l'intérieur des alliances françaises, à savoir les comptables, les responsables de cours, les responsables culturels, les professeurs, les directeurs, etc. Et nous veillons à ce que chaque année, il y ait au moins une réunion pour ces corps de métier. Cela permet aux gens, d'une part, de se connaître, de voir un petit peu les difficultés rencontrées dans chaque ville, parce qu'il y a une loi fédérale, mais après, en fonction des régions, il peut y avoir des nuances sur les bases de travail, les principes de travail, par rapport à la loi russe. Donc ça, c'est important, parce que c'est vraiment un échange d'expérience et d'idées, ça consolide complètement l'équipe.
Parce qu'ils sont quand même assez éloignés les unes des autres et j'imagine que ce n'est pas toujours évident. Surtout que vous parliez par rapport à la loi russe, c'est-à-dire les statuts des alliances françaises en Russie sont
en conformité avec la loi russe et en conformité avec les statuts des alliances françaises de Paris. Donc ça a été un travail assez précis et pas très simple pour pouvoir trouver ce bon équilibre entre les objectifs de la Fondation de l'Alliance française de Paris et la loi fédérale.
Et qui sont lesquels ? Qui sont principalement donc dirigés vers l'apprentissage de la langue,
la promotion
et la diffusion de la promotion de la culture française.
Et de la langue française, oui.
Et quel rapport avec la loi russe ? Ou quelles difficultés, disons ?
Par exemple, bien sûr, pour promouvoir une langue française, il faut proposer des cours. Donc, en Russie, nous proposons des cours, mais nous ne sommes pas reconnus comme des établissements d'enseignement. Donc voilà, c'est des petites nuances comme ça, parce que la loi 1901 qui existe en France sur les associations n'est pas du tout présente en Russie aujourd'hui. Donc bon, c'est un travail de longue durée qui commence à être entrepris.
Pour harmoniser les deux
C'est-à-dire
systèmes.
C'est-à-dire qu'une association en Russie n'aura pas le même statut qu'une association en France. Bon, ce qui est tout à fait logique, selon les pays où on va, on a des configurations différentes.
Mais vos moyens d'existence proviennent quand même, comme dans la plupart des alliances, des cours payants ou non ?
Oui, bien sûr, tout à fait.
Donc vous avez une autonomie financière relativement ?
En ce qui concerne le fonctionnement, oui. À l'heure d'aujourd'hui, oui, mais pas en ce qui concerne les activités culturelles, oui. Si on veut que les activités culturelles soient de qualité.
Justement, parlons-en des activités culturelles. Vous avez, comme toute alliance française dans le monde, une vitrine Culture France. Et quels sont, disons, quelques moments ou quelques événements dont vous pouvez nous parler là maintenant ?
En dehors de l'année France-Russie,
c'est ça ? De l'année France-Russie, dont nous parlerons bien entendu tout à l'heure, plus en détail.
Nous avons des rendez-vous annuels, le public y est très fidèle, comme par exemple la francophonie, les journées internationales de la francophonie, ou encore le printemps des poètes, ou encore l'Iran en fête, quand l'Iran en fête existait jusque l'année dernière ou l'année d'avant, je crois. Donc voilà, ça, ce sont
des moments forts de
l'année qui sont bien suivis aussi par les médias. le public qui est maintenant habitué et très fidèle à ses actions. Il participe de manière très active et dynamique.
Avec peut-être des ateliers, des expositions.
Oui,
tout à fait.
Alors,
des
ça peut être des expositions.
Peut-être de poésie.
Oui, bien sûr. Donc, la poésie, ça peut être des lectures de textes, ça peut être des rencontres avec des poètes, ça peut être effectivement des concours. La francophonie, c'est à la fois musicale, je dirais, cinématographique. Ça peut être photographique, puisqu'on peut mettre aussi en place des expositions de photos. C'est très varié. En général, beaucoup de disciplines culturelles sont approchées et mises en place.
Est-ce que le peuple, le public russe aujourd'hui est toujours très cultivé ou encore très cultivé?
Oui, toujours très cultivé, oui, c'est vrai.
Donc très réceptif à tout apport, à toute innovation venant de l'étranger.
Tout à fait.
Donc vous avez une noble mission.
Il faut être à la hauteur.
Vous félicitons parce que c'est toujours une grande joie d'entendre les témoignages des différents représentants des alliances françaises parce qu'ils travaillent toujours avec un enthousiasme extraordinaire. Justement dans cet échange culturel principalement, qui passe bien sûr par la langue. Bon, je suggère une deuxième pause, peut-être avec une autre musique un peu plus folklorique. Après ces mélodies fort entraînantes de musique russe, on continue notre entretien en compagnie d'Elisabeth Braun, la coordinatrice des Alliances françaises en Russie, pour parler d'un événement majeur de l'année 2010, qui est l'année croisée France-Russie. Donc vous êtes fortement impliquée, sinon partiellement responsable de l'organisation de cette année qui promet d'être très très riche en événements culturels. Alors évidemment, je vais vous demander quelques moments forts que vous pouvez nous présenter déjà ici à l'antenne. Je suis tombée sur une citation de l'ambassadeur de Russie en France qui dit, je cite, « L'art et la culture classique seront au cœur de sa programmation, mais également les tendances contemporaines dans l'art, le cinéma, la science, l'éducation et le sport seront représentées afin de réunir un nombre important de participants et d'attirer les jeunes. » Donc, il y a une offre multiple en tout cas, une offre pour tout le monde. Elisabeth Braun, pouvez-vous peut-être nous en parler un petit peu?
Tout à fait, très bien résumé. Donc, la panel donc, de manifestations qu'il va y avoir donc, dans le cadre de cette année, à la fois en France et en Russie. Donc, le lancement de l'année de la Russie en France a eu lieu le 25 janvier, c'est-à-dire il y a deux jours, donc c'est tout à fait récent. Et le lancement de la France en Russie aura lieu donc, au mois de février. Je tiens vraiment à dire que les personnes qui s'occupent de cette année donc en France, il s'agit bien de Culture France, donc qui héberge chaque année des saisons, en fait, ou bien l'année de la France dans un pays, ou bien l'année d'un pays en France. Et là, c'est assez exceptionnel, puisqu'on a en une année à la fois l'année de la France en Russie et l'année de la Russie en France.
Oui, d'où la notion de l'année croisée. Qui a d'ailleurs été, il faut quand même le souligner, à l'initiative des deux présidents, enfin des présidents des deux pays, donc Nicolas Sarkozy et Dmitri Medvedev.
Oui, tout à fait. Donc il y a une équipe qui a mis en place ce très beau programme que le public français pourra découvrir et le public russe aussi en Russie. Donc le commissaire général de l'année France-Russie, qui est Nicolas Chibaïev, connaît très très bien ce pays et a apporté vraiment, je pense, au public français un programme de qualité, également au public russe, avec toute son équipe, bien sûr.
Voilà. Alors, quelques grands événements, s'il
vous plaît.
Grands
événements, donc le premier retentissant aura lieu donc à Moscou, au musée Pushkin. Donc, c'est une exposition sur Picasso, qui ira donc à la fois à Moscou et ensuite à Saint-Pétersbourg, à l'Ermitage. Donc, elle sera inaugurée au moment où on ouvrira officiellement l'année de la France en Russie.
C'est une exposition nouvelle ou une des expositions qui a déjà existé?
C'est une exposition nouvelle, oui, dans le sens où, effectivement, c'est une exposition qui est en ce moment, qui a été proposée il y a environ un an, quoi, par le musée Picasso.
C'est une exposition du musée Picasso?
Oui, tout à fait.
Ah, d'accord. Donc ça fera l'ouverture de la saison France en Russie?
Tout à fait.
Peut-être vous voulez invoquer d'autres grands événements?
Il y aura également à l'Ermitage donc une exposition sur l'art contemporain qui est mise en place avec le centre Pompidou. Donc là, on passe du patrimoine à l'art contemporain. Donc ce sera aussi très intéressant pour le public russe.
Il s'agit d'un artiste en particulier ou...
Non, c'est différents artistes. En fait, c'est ce qui a été proposé au Centre Pompidou cet automne. En fait, on va reprendre ce même programme. Enfin, pas dans sa totalité. Les choix ont été faits certainement, des choix d'œuvres. Et donc, ça va être amené directement à Saint-Pétersbourg.
Oui, donc
par rapport à ce qui s'est fait là cet automne.
Quelques artistes contemporains représentatifs de l'art actuel en France.
Oui.
De l'art contemporain français.
Français et aussi un petit peu étranger, parce qu'il y a aussi les artistes étrangers qui sont.
Qui vivent
reconnus,
en France et voilà. Qui sont nourris par l'esprit français, disons.
Oui. Voilà, tout à
fait. Et dans le domaine des arts de la scène, par exemple.
Oui, alors il va y avoir un très grand événement, c'est la tournée de la Comédie française. Donc, il va avoir lieu dans 6 villes. Moscou, bien sûr, il y aura aussi Saint-Pétersbourg, mais aussi 4 villes en région. Ça, c'est un grand événement pour le public russe. Et les Alliances françaises vont participer.
Doivent être fortement impliquées, j'imagine, oui. Parce qu'ils ont déjà leur public sur place, en quelque sorte. Donc, il faut les amener au théâtre.
Oui, c'est vrai que la Comédie française travaille directement avec un festival qui s'appelle le Festival de Tchekhov à Moscou. Donc, ils travaillent en bonne entente ensemble. Le festival de Tchekhov est très expérimenté, mais forcément, ils ont besoin aussi de relais, en tout cas sur place,
oui.
Voilà, pour pouvoir aussi suivre ces événements. Il y aura un bel événement au niveau littérature qui s'intitulera Transsibérien, Blessandra. Donc, des auteurs français contemporains, pas très connus en Russie, parcourront donc toute la Russie de Moscou à Vladivostok.
Ah oui, comme il se doit pour le Transsibérien de Moscou à Vladivostok.
Donc à nouveau, beaucoup d'alliances vont être impliquées dans ce projet.
C'est le train des écrivains, c'est
oui,
ça ?
Oui, le train des écrivains. On a également au niveau cinéma un festival de cinéma contemporain français, donc itinérant, qui va parcourir 27 villes quand même de Russie, c'est assez important, où les alliances à nouveau sont fortement impliquées. Et puis, d'autres manifestations sur le cinéma. Donc là, on parle plutôt du cinéma de fiction, mais il va y avoir la Cinémathèque de la Danse aussi qui va venir et qui va aussi proposer un programme sur cette thématique. De même, de nombreux festivals russes ont proposé de mettre en avant le cinéma français aussi, de mettre un coup de projecteur sur le cinéma français. Donc ça, c'est important pour nous, puisque les partenaires russes sont demandeurs.
Donc j'imagine que ça va peut-être donner lieu à l'ouverture d'autres alliances françaises ultérieurement, après ce grand coup de projecteur.
On va d'abord bien consolider le réseau existant, oui. Et ensuite nous verrons.
Et donc pour la programmation Russie en France, qu'est-ce que vous pouvez nous présenter ?
De même, ces disciplines seront bien sûr mises en avant. Donc au Louvre, si je ne fais pas d'erreur, le 5 mars, on ouvrira donc une grande exposition qui s'intitulera Sainte-Russie. De même, au niveau
avec
cinéma...
Avec de magnifiques icônes, j'imagine.
Tout à fait.
Ils organisent aussi beaucoup de colloques et d'ateliers pour enfants.
Oui,
enfin, c'est toute une grande manifestation.
Oui, et puis il y a aussi au niveau musical, au niveau de l'art contemporain, russe aussi, qui aura donc une place au sein de ce musée. Cinématographiquement aussi, il y aura un programme. Ce sera assez intéressant, assez intense.
Je vois dans votre magnifique catalogue, aussi les ballets russes,
oui.
Bien sûr, on ne peut pas montrer les ballets russes qui seront sûrement à l'opéra.
Ils sont aussi en ce moment en tournée, donc je pense que ça rencontrera un grand succès.
Non seulement les ballets russes, mais aussi l'opéra russe et la musique russe qui doit être mise à l'avant, j'imagine.
Oui, ben d'ailleurs, l'année de la Russie en France a été ouverte avec l'orchestre Mariinsky et puis le chef d'orchestre Gergiev.
Et peut-être aussi en province.
Oui, il y aura aussi une
il
programmation.
Il doit y avoir des manifestations.
Les ballets russes sont en province également. Au niveau du théâtre... Bon, par exemple, le théâtre de Perm, le théâtre Colliada, est en ce moment aussi en tournée à la fois dans la région parisienne et je crois aussi qu'il va aller un petit peu en province. Donc, toutes les références, en tout cas, que l'on peut avoir au niveau du théâtre, du patrimoine, de la musique classique, de la danse aussi, en ce qui concerne la Russie, seront présentes sur le territoire français pour cette année France-Russie.
Et j'imagine aussi, sur le plan de la littérature, il doit y avoir des échanges assez intensifs parce que le peuple russe et le peuple français sont quand même connus pour leur grande littérature.
Oui, il y aura une forte présence à Saint-Malo aussi d'écrivains russes. Nous avons aussi réussi à mettre en place un beau projet et peut-être moins considéré comme littéraire, mais en tout cas au niveau de la bande dessinée. Il y a un beau projet entre le festival d'Angoulême et le festival Boomfest de Saint-Pétersbourg. Donc voilà, on essaie quand même de varier et surtout d'attirer un public très différent et très large.
Mais écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être venu jusqu'à chez nous, à l'Institut
de
France.
Merci à vous de m'avoir accueilli.
Nous pourrons conclure cet entretien avec justement vos vœux que vous avez exprimés dans ce catalogue. Que cette année 2010 soit placée sous le signe de l'échange et de la découverte pour une meilleure connaissance de nos cultures. Voilà, c'est merci. Ce que nous pouvons vous souhaiter nous-mêmes.
Merci.
Merci beaucoup, Elisabeth Borne.
Merci.